Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Et oui, c'est l'heure de nous retrouver sur cette libre antenne, l'heure de baisser les lumières et de s'installer pour parler ou pour écouter. Pendant ces 2 heures, vous le savez, nous allons parler de tout et de rien, de toutes ces grandes choses qui font notre vie et de tous ces petits riens qui finalement ont beaucoup plus d'importance qu'on ne le croit. Si vous êtes seul ce soir et que vous avez envie de parler, appelez-moi tout simplement au 3921 et je vous accueillerai dans l'intimité de ce studio tout bleu. Vous pouvez appeler pour partager avec nous des soucis, des problèmes, des doutes, des expériences douloureuses, mais aussi, je vous le dis souvent, des moments de vie exceptionnels, des rencontres marquantes, des événements touchants, parce que ce qui vous fait grandir peut nous faire grandir nous aussi. 3921 pour nous appeler. Et si vous voulez participer à l'émission par SMS, vous faites le 739-21 en commençant par le mot « nuit ». N'hésitez pas à apporter un soutien, un mot gentil ou une idée pour aider celles et ceux qui se confient sur cette antenne. Jacques Salomé disait... Écouter, c'est accueillir l'autre avec reconnaissance, tel qu'il se définit lui-même, sans se substituer à lui pour lui dire ce qu'il doit être. C'est donc dans cet état d'esprit que je vous attends au 3921. Amandine et Hassan sont prêts, Nicolas Godet aussi. La Libre Antenne, ça commence donc maintenant.
Europe 1, la Libre Antenne. Sabine Marin.
Et on ouvre cette Libre Antenne ce soir avec vous, Jeanne. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui.
Voilà, je sais pas très bien. En fait, hier, je vous écoutais à la radio, et puis je sais pas. J'ai eu envie de vous appeler parce que pour parler simplement, comme j'étais triste et un peu déprimée.
Eh bien, vous avez bien fait, Jeanne. Je suis aussi là pour ça. Bienvenue dans ce studio.
Et puis aujourd'hui, donc on m'a rappelé. Bon, ça va un petit peu mieux, mais je suis pas très bien.
Qu'est-ce que vous avez ?
Je voulais vous expliquer que. Depuis ma retraite, en fait, ça fait quelque temps, je me suis laissée aller à des comportements addictifs, j'avais l'impression d'un grand vide, et j'ai l'impression d'être déprimée, alors je me demandais si c'était quelque chose qui m'avait conduite au jeu et puis à l'alcool. Ou si, enfin, je ne sais pas très bien, excusez-moi, m'exprimer.
Racontez-moi d'abord un peu votre histoire. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier avant ?
J'étais secrétaire.
Est-ce que c'est un métier qui vous plaisait ? Vous aimez bien aller travailler ?
Moyennement.
Oui, moyennement ?
Moyennement.
Donc, vous avez quand même vu arriver la retraite avec plutôt un sentiment de quoi ? De soulagement ?
De vide aussi.
De vide aussi, quand même.
Quand je suis seule.
Alors c'est voilà. Ça, vous avez été mariée avant, vous avez divorcé ?
Oui, voilà. Je me demande si c'est pas ça qui a tout déclenché.
C'est-à-dire ?
Je me demandais si c'est pas ça qui a déclenché cette...
Le divorce ?
Cette cicatrice dont je ne me suis jamais remise.
C'était il y a combien de temps, ça ?
Il y a déjà 20 ans, pourtant.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
J'ai l'impression que c'était que ça me libérait, puis au fond, je me suis rendu compte que j'étais pas capable de m'assumer moi-même.
C'est-à-dire qui a décidé du divorce ?
Ce n'est pas moi.
C'est lui ?
Oui.
Pour quelle raison ?
Je pense que c'était une incompatibilité, caractère. Je pense que c'était mon caractère qui ne lui convenait pas.
Mais ce que j'entends, d'après ce que j'entends, vous avez été mise devant le fait accompli, en fait.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc là, effectivement, il y a eu un premier grand vide.
Oui, c'est ça le problème. Et donc, je suis vraiment très déprimée. Mais depuis, déjà, je me demande si ce n'est pas non plus, si ça ne date pas de l'enfance. Parce que j'ai toujours un peu été triste, vous voyez ?
Pourquoi ?
Je ne sais pas.
Comment elle était votre enfance à vous ?
Un peu triste aussi, peut-être. Triste sans son père, sans argent. C'est peut-être ça qui a fait que je n'ai jamais pu être vraiment heureuse, je ne sais pas. Enfin, j'ai l'impression de ne pas être très cohérente, excusez-moi.
Non, on fait connaissance, donc je vous pose des questions pour savoir un petit peu comment a été votre vie et comment a pu se construire ce sentiment de vide. Vous me disiez petite, votre papa était là ou pas, non ?
Non,
c'est ça.
Il n'y avait pas de papa.
Pas de papa, pourquoi ?
Parce qu'il était décédé, très jeune, j'avais 4 ans.
D'accord, donc déjà, ce premier vide, il a commencé là, en fait,
c'est ça ? Oui, je pense aussi, et je ne sais pas si je traîne pas un peu...
C'est un vide qui a été réactivé par. C'est un vide qui a été réactivé par le divorce quelques années plus tard.
Oui, par l'abandon et puis. Oui.
Et pour en revenir à la retraite, alors vous avez été en retraite il y a combien de temps ?
Il y a 3 ans.
3 ans. Est-ce que du jour au lendemain ça a été brutal ou est-ce que c'est petit à petit que cette solitude s'est installée, ce sentiment de mal-être ?
Je pense qu'il était déjà là, mais il s'est confirmé. Oui, il était déjà là, mais bon, on pense moins quand on a une activité.
Oui, quand on n'a pas le temps de cogiter.
On est fatigué, puis on s'endort, et voilà. Et tandis qu'en ce moment, bon, j'ai l'impression de me détruire un peu, vous voyez. Je me suis mise à boire, enfin pas énormément, mais quand même un petit peu, à jouer aussi au casino. Vous voyez, j'ai l'impression d'une conduite suicidaire.
C'est une manière inconsciente de chercher désespérément à remplir un vide.
Oui, ou à mal-être.
Mais malheureusement, on ne soigne rien ni avec l'alcool ni avec les jeux, c'est un leurre.
Oui, alors je me demandais parce que j'ai vu en fait sur internet que vous étiez hypnothérapeute et je voulais vous poser des questions pour savoir si peut-être que l'hypnose peut apporter quelque chose.
Alors l'hypnose pour les addictions est extrêmement intéressante, évidemment. Maintenant, quand il s'agit d'alcool, j'ai tendance à dire que c'est bien de coupler ça avec un spécialiste, un alcoologue. Quelqu'un qui, vous voyez, c'est bien de voir quelqu'un dont c'est la spécialité médicale, un médecin, et de renforcer ça en faisant des séances d'hypnose, pour travailler plus sur l'émotionnel.
Sinon, pour les addictions au jeu, par exemple, ça peut être efficace aussi.
Tout à fait.
Ou bien il faut coupler.
Non. Tout ce qui est addiction hors alcool, ça se suffit à soi-même l'hypnose. La plupart des addictions à la cigarette, à la nourriture, au jeu, à d'autres choses, ça fonctionne vraiment bien.
Ça demande peut-être plusieurs séances aussi.
Ça dépend des gens, ça dépend de la réceptivité, mais de manière générale, en une à deux séances, ça peut souvent être bien réglé.
Parce que j'ai vu que vous habitiez Paris, mais vous.
Je ne veux pas tout mélanger. Là, on est sur la libre antenne, ça n'a rien à voir. On n'est pas sur une consultation. D'ailleurs, je vais être très claire, je ne prends plus de nouveaux patients et je ne prends pas les gens que j'ai sur la libre antenne, sinon ça c'est confusant et c'est pas le but.
Ah oui, excusez-moi. C'est pas le but.
En revanche, je peux vous donner de bons conseils sur l'hypnose parce que ça, je connais bien. Oui. Effectivement, la seule chose où je suis très prudente, c'est le domaine de l'alcool parce que c'est une addiction qui joue sur la santé et c'est pour ça que c'est important de voir un médecin en parallèle. Mais si vous arrivez à voir un médecin spécialiste de l'alcool, et de l'alcoolisme, et de faire des séances d'hypnose à côté, ça peut vraiment, vraiment vous aider à sortir de là. Mais au-delà de ça, en vous écoutant, Jeanne, il est clair qu'il y a quelque chose qui remonte à bien plus longtemps que ça. Donc si vous voulez soigner une addiction, c'est bien, mais c'est comme enlever une mauvaise herbe. Si on n'enlève pas la racine, c'est un peu compliqué.
Oui. Mais comment découvrir en fait la racine du mal ? Comment faire une psychothérapie ?
Vous pouvez faire une psychothérapie, vous pouvez aussi travailler là-dessus en hypnose, mais non pas sur l'addiction, mais sur ce vide, sur le vide que la petite fille que vous étiez a ressenti quand votre papa est parti, sur le divorce, qui est un deuil qui n'est peut-être pas fait. J'entendais tout à l'heure que vous aviez du mal à vous en remettre.
Oui, donc en fait, c'est plutôt une psychothérapie qu'une...
Vous pouvez cumuler les deux. On peut travailler sur une addiction pour se débarrasser de la cause, de la conséquence, et travailler en profondeur pour aller réparer la cause.
Parce que moi, je me demandais si ce n'était pas la dépression qui m'avait conduite à ça, un état dépressif qui m'a conduit à meubler. Je pense que c'est une dépression, un état dépressif que je traverse.
Mais l'état dépressif, il prend sa source dans ces trous qu'il y a eu dans votre vie, dans ces vides.
Oui, c'est ça.
Donc on en revient toujours à la même chose. C'est intéressant d'aller voir la cause, d'aller voir l'origine, la racine.
Et je ne peux pas la trouver moi-même, puisque j'ai essayé de...
C'est difficile de travailler sur des choses aussi profondes tout seul. On a besoin de parler, d'avoir des conseils de professionnels quand même. De pouvoir poser sa tête sur l'épaule de quelqu'un et de se faire accompagner. Il y a peut-être le deuil de papa qui n'est pas complètement fait, je ne sais pas. Il y a le deuil de ce divorce qui ne semble pas être fait. Vous savez, le deuil, c'est pas forcément la mort. Hein. C'est toute situation où il y a un avant et un après. Par exemple, la retraite est une sorte de deuil. Il y a un deuil
oui,
à faire.
Est-ce qu'on peut soigner, je sais pas, par une hospitalisation ou bien une... Non, c'est pas...
Si vous allez très très mal, vous pouvez être hospitalisé en le temps de vous mettre, ou en tout cas rentrer dans une maison de repos, mais c'est ça, c'est ça dont vous avez envie?
Ben, je me demandais si ça ne résoudrait pas. Peut-être que ça me ferait prendre du recul, je ne sais pas, avec la vie, ou peut-être voir des spécialistes qui m'aideraient.
Dans ces cas-là, je vous recommande d'aller voir plutôt un psychiatre qu'un psychothérapeute, parce qu'un psychiatre est un médecin qui est apte à vous donner des ordonnances et à vous diriger vers des organismes aussi.
C'est plutôt un psychiatre.
Ouais, oui, je pense, dans un cas comme ça. Si...
Tout bon, comme médecin généraliste, oui.
Et ça sera à lui de voir, en parlant avec vous, si vous avez besoin d'être... effectivement, de prendre ce recul pour ne pas être seul, ou si vous pouvez trouver un accompagnement thérapeutique en restant chez vous, mais en allant toutes les semaines voir quelqu'un, par exemple, aussi.
Oui, un psychiatre, donc, en fait. Oui, j'y avais pas pensé, au psychiatre.
Là, en l'occurrence, oui, si vous commencez à me parler d'hospitalisation, je préfère que ce soit cadré par un psychiatre, oui. Ça me paraît quand même plus sérieux.
Oui, puis, en fait, je voulais simplement... C'est vrai que j'avais envie de parler, parce que je vous ai entendu parler, et puis vous étiez tellement attentive à la dame d'hier, mais bon, c'est vrai que c'est ce que je voulais faire, surtout parler. J'avais besoin de parler.
Mais on a tous besoin de parler. C'est aussi pour ça que cette émission existe. Ça paraît bête quelquefois, mais simplement parler, ça fait du bien.
Oui, vous êtes tellement à l'écoute quand je vous entends.
C'est gentil. Je fais de mon mieux, c'est pas toujours évident, mais j'essaie de capter. Oui. J'essaie en fait de mettre dans une bulle, vous savez, avec les gens qui m'appellent, comme si on n'était que toutes les deux. Et comme si je sors tous mes radars pour entendre tout ce que vous me dites et surtout comprendre ce que vous ne dites pas aussi, parce que l'émotion est souvent entre les mots.
Oui, mais c'est vrai, le fait de vous parler déjà, on se sent mieux parce que, je ne sais pas, c'est une oreille attentive en fait qu'il me faudrait pouvoir parler peut-être.
Ben, c'est pour ça que je vous invite à trouver d'abord un bon psychiatre et ensuite... Un bon hypnothérapeute, quelqu'un qui saura vous accompagner sur ce chemin-là
bon
en douceur.
Un psychiatre d'abord, oui. Oui, je vous remercie.
Ça me paraît important que vous travailliez sur ces vides, parce que effectivement, toute addiction, plus ou moins consciemment, c'est un besoin de remplir un vide.
Oui, je voulais comprendre cette addiction et puis.
Vous savez, il y a une
on n'arrive pas à se libérer des addictions comme ça.
Ah, tout seul, c'est compliqué, évidemment. Sinon, ça se
Et avec l'aide de quelqu'un, vous pensez que...
Bien sûr qu'on y arrive, bien sûr.
Avec un psychiatre ou bien un hypnothérapeute?
Je pense que les deux sont tout à fait compatibles. C'est pour ça que je vous disais ça. C'est pas la même approche du tout. Et vous voyez, il y a une image que j'aime bien. Par exemple, quelqu'un qui a une addiction à la nourriture, qui a tendance à se bourrer de sucre toute la journée, c'est pareil. C'est souvent quelqu'un qui a l'impression d'un vide dans sa vie. Et le vide, en hypnose, on peut le transformer en trou ou en creux. Et c'est intéressant quand on parle de creux, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on mange? Pourquoi on mange? Parce qu'on a un petit creux.
Oui.
Et ce creux, j'ai tendance à dire qu'il est intéressant de construire par-dessus une passerelle d'amour. Surtout les creux, les failles de notre vie, pour éviter d'avoir à les remplir ou tomber dedans, on construit par-dessus une passerelle d'amour pour soi-même et d'estime pour soi. Et quand on a construit cette passerelle-là, alors on avance.
Oui, une passerelle qu'il faut construire. Vous parlez une passerelle qu'on construit comment? Alors, excusez-moi.
En travaillant, thérapie, en restaurant l'estime de vous-même, en faisant le deuil des situations qui ne sont pas encore terminées dans votre cœur, je dirais surtout, parce que quelquefois intellectuellement, on a bien appréhender la situation, on se dit d'accord, j'ai compris, c'est fini.
Oui, je comprends ma situation, mais...
Mais émotionnellement, les nœuds sont encore là.
Donc ce n'est qu'un bon psychiatre que vous pouvez me conseiller.
Je vous dis un bon psychiatre et de trouver un hypnothérapeute qui vous aidera à travailler sur les émotions.
Oui.
Et sur tous ces deuils qui ne me semblent pas complètement terminés et qui peuvent peut-être vous empêcher d'être bien, quoi.
Oui, c'est vrai. Mais quand on a été quand on est dans un état dépressif, est-ce que ce n'est pas un peu en soi? Est-ce que ça, on peut guérir de ça quand on est un peu triste,
Tout peut toujours changer, Jeanne.
Mélancolique.
Tout peut toujours changer.
Toujours changer.
Ça serait trop triste si on disait, vous vous rendez compte, si tout était figé comme ça? Bien sûr que tout peut changer. Je vous dis pas que c'est facile, mais je vous dis qu'il y a un chemin.
un étant pour... oui.
Mais en vous accompagner, parce que toute seule, c'est beaucoup trop
c'est
difficile.
C'est ça, je pense qu'il faudrait que je sois accompagnée.
On a tous besoin, à un moment donné, de se faire aider dans des moments comme
oui.
ça.
Je vais suivre votre conseil. En fait, je n'avais pas pensé au psychiatre, vous voyez, j'ai pensé à tout, sauf au psychiatre.
Mais ce qui me rassure, c'est que vous avez quand même beaucoup de lucidité. Donc vous avez déjà pris un peu de recul et donc déjà commencé ce chemin pour aller mieux.
Oui, mais c'est très long. Ça me paraît très long. Mais merci beaucoup, Sabine.
Avec plaisir. Vous me donnez de vos nouvelles quand ça ira mieux, Jeanne.
Oui, merci encore.
Et vraiment, prenez soin de vous et vous allez voir que quelquefois, c'est pas si long que ça d'aller mieux.
Oui.
Des fois, la lumière, elle peut être tout près et on l'a juste pas encore vue.
Oui, j'espère que ce sera le cas.
Je vous en envoie plein de lumière en tout cas en attendant. D'accord ?
Merci encore et bonne continuation.
Vous aussi, Jeanne. Merci, au revoir.
Au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et avant d'accueillir Odile sur cette Libre Antenne, j'aimerais dédier ce petit texte sur l'espoir à Jeanne. L'espoir ouvre notre esprit à la confiance que nous pouvons faire quelque chose d'autre que ce que nous avions peut-être prévu, qu'il existe toujours d'autres possibilités. Nous choisissons l'impuissance de bien des façons, nous décidons que c'est la fin du monde si nous n'obtenons pas l'objet précis d'un désir. Nous refusons d'essayer des choses avant de vraiment savoir si elles vont fonctionner. Nous attendons de l'avenir qu'il soit une répétition du passé, présumant que les situations ne peuvent pas être différentes. L'espoir est cette part de nous qui n'abandonne jamais, qui sait que tout sera bien, avec une certitude et une confiance totale. C'est la part de nous qui dit « Je traverse peut-être un tunnel sombre en ce moment, mais je sais qu'il y a une lumière au bout, même si je ne peux pas encore la voir. » L'espoir est donc essentiel aux êtres humains, et c'est extrait du livre « Choisir d'être heureux » de Véronique Arey. Voilà, et maintenant c'est vous, Odile, que j'accueille avec plaisir sur cette antenne. Bonsoir à vous.
Bonjour Sabine, merci de m'accueillir sur l'antenne d'Europe 1.
Bienvenue. Dites-moi.
Vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Ça fait très très longtemps que je vous écoute très attentivement et vous nous apportez énormément de choses. Ça nous permet de décortiquer nos expériences personnelles, nos vies et parfois d'aider aussi d'autres à travers ce que vous dites, à travers un livre. Merci oui. pour tout ça.
Merci à vous. C'est ensemble qu'on grandit.
Oui, voilà. Alors, pour vous dire, je suis une femme de 52 ans.
Uh-huh.
J'ai beaucoup lu, donc j'ai aussi, pendant deux périodes de ma vie, été voir un psychiatre. J'y suis retournée cette année au mois de septembre.
Pour quelle raison vous avez vu, pour quelle raison la première fois ?
Alors, la première fois, c'était... pour causer de problématiques avec mon adolescent, mon fils.
Mmh.
Et puis ensuite, c'était pour causer de moi-même, puisque mon adolescent n'était plus à la maison de la même manière. Et ensuite, j'y suis retournée cette année, mais c'était vraiment pour travailler ce que je vais essayer d'ouvrir avec vous. La particularité des psychiatres, c'est bien dommage, c'est d'écouter. Donc, je suis tombée sur une psychiatre lacanienne, respect, un très bon contact et tout ça. Mais au bout de la deuxième séance, je lui ai dit, écoutez, je suis venue avec une grosse valise, je suis en train de l'ouvrir. Mais quand je ressors, la valise est intacte puisque dans une séance, vous me donnez deux petits mots.
Oui,
pas du tout ce que vous faites.
Oui,
voilà.
Ce que vous auriez voulu, c'est qu'elle vous aide à ranger ce qu'il y avait dans la valise, en fait.
Ben effectivement, donc ça sert à rien d'aller d'ouvrir une valise et de repartir avec la même charge et de ressortir ce linge, comme vous dites, vous mal rangé, je dirais plutôt sale. Ça sert à rien du tout puisque ça fait pas avancer les choses et on a cette problématique de savoir vers qui on va le diriger, de quelle manière. Après, il y a aussi des questions financières qui font que d'autres thérapeutes, puis c'est peut-être pas évident de trouver parce que parfois il y a les bons et il y a entre guillemets, ce qu'on peut appeler les opportunistes du métier.
Donc, dans tous les domaines, ça c'est sûr.
C'est pas facile de faire confiance. Voilà. C'est pas facile de trouver un bon thérapeute ou quand on connaît pas, on se méfie un peu.
Donc, mais avant de parler de thérapeute, parlez-moi de votre problématique.
Alors, la problématique, c'est que j'ai accumulé pendant il y a un demi-siècle pas mal de choses qui remontent à l'enfance que j'ai très bien identifiées il y a la cinquantaine, je me suis dit toute la vie devant soi, c'est une autre période de la vie que je vais entamer, et sauf que pour des raisons de santé mais aussi des raisons professionnelles, je me suis écroulée, c'est-à-dire je me suis autorisée de dire maintenant c'est à toi, donc tu vas pas bien, alors tu te reposes et tu laisses les émotions remonter, tu vas essayer de les traiter, de les accueillir et de les vivre d'une certaine manière. Donc je me suis accordée cette pause, sauf que la pause ça fait 3 ans, je vais mieux moralement. À un moment donné, j'ai dit à mon médecin traitant, j'arrivais plus à mettre un pied l'un devant l'autre. J'ai écouté une émission de votre confrère, la consoeur, la semaine, qui disait cramer de l'intérieur, quoi. Je me suis demandé si c'était un burn-out. Alors mon médecin m'a dit non, vous savez, c'est un mot à la mode, ça veut pas dire grand chose. Alors a-t-il voulu me consolider parce que il est au courant des étapes que j'ai pu traverser en tous les cas, je me suis récupérée moralement, mentalement, mais j'ai un décalage entre mon corps qui a assailli moi, parce qu'avant j'avais mal au dos, j'avais mal, j'ai eu différentes fractures parce que j'ai subi il y a 15 ans de la violence conjugale, donc ça a laissé des séquelles et d'un autre côté, j'ai dépassé tout ça moralement parce que j'ai eu la force de quitter le personnage en question. Il y a eu différentes étapes de ma vie qui n'ont pas été évidentes. Il y a eu un licenciement économique au bout de 9 ans et 8 mois. Il y a eu une fracture du ménisque avec incarcération dans le tibia. Cette année, au mois de mars, il y a eu une embolie pulmonaire après une thrombose veineuse. J'entendais les addictions de cette dame qui était avant, que je comprends très bien parce que par des lectures, mais aussi moi je suis quelqu'un qui va aller combler justement les trous, les manques d'une vie par l'alimentation.
J'ai besoin de vous poser 2 questions avant de perdre le fil.
Allez-y.
Quand vous avez cette fracture du ménisque, est-ce que c'était au moment des problèmes avec votre fils?
Il y avait différentes choses. Oui, c'était au moment des problèmes avec mon fils. Enfin, les problèmes, ils ont duré longtemps, mais une adolescence, c'est un peu perturbée, avec des choses qui remontaient de cette histoire parentale, du papa et tout ça, un peu de phénomènes dupliquants des attitudes. Donc, il a fallu se protéger, parer, mais aujourd'hui, la relation, elle est bien, mais il a fallu ne pas
céder. C'est juste pour faire un lien entre ce qui s'est passé.
Allez-y.
Physiquement.
C'est intéressant.
Je mets ça de côté, on en parle après. Deuxième question, cette embolie pulmonaire est arrivée quand il se passait quoi dans votre vie ? À quel moment ?
Un gros tracas, parce qu'en plus de ça, mes propriétaires ont décidé de récupérer leur logement.
Voilà,
donc,
problème de place.
Je risquais une mise à la rue. Les enfants sont aux côtés de leur maman. Et donc, un gros tracas de justice, une très grosse contrariété, qui n'était pas justifiée, puisqu'ils n'ont pas eu en plus gain de cause, mais voilà, dans laquelle je suis toujours, puisqu'ils ont resservi les couverts d'une façon différente, mais je pense qu'elle est liée à cette affaire de justice. Enfin, vous parliez de l'effet millefeuille hier, et ben, ma vie est un effet millefeuille depuis quelques temps. J'accumule, je dirais, bon, et je l'accepte, hein, parce que c'est un passage de la vie, et les effets, je dirais, négatifs, qui se superposent, sauf que j'en ai un peu marre, mais bon, que faire si ce n'est que les accepter et les accueillir et bah, de prendre une chose pièce par pièce, essayer de s'en sortir. Alors bon, sur mon fils, l'évolution, elle est fabuleuse, elle est bien, la relation évolue bien, les choses se sont posées, il est bien, mais moi, j'ai du mal à me retrouver. Donc, dans ma tête, j'optimise, j'ai envie de l'extérieur. Je suis quelqu'un qui a vécu outre-mer pendant 10 ans, qui a fait beaucoup de choses. J'ai géré des équipes, j'ai, enfin, voilà, professionnellement et tout. Et là, je booste plus. Il y a un décalage entre la capacité du corps et ce que le mental voudrait. Donc j'ai besoin de vous. Guidez-moi un peu parce que j'en ai dit beaucoup et peut-être pas ce qu'il faudrait.
Mais non, mais voilà. J'intègre tout ça, j'entends chacun des mots et je fais des listes en attendant.
Y a plusieurs choses. Parce qu'avec moi, c'est une grande liste. Oui, elle remonte très très loin peut-être. Oui, oui, oui.
Bah, comme souvent, hein, on est tous le résultat de toutes ces années passées. La première chose dont je voulais parler avec vous, parce que je m'intéresse beaucoup au décodage biologique, c'est-à-dire pourquoi le corps déclenche telle chose plutôt qu'une autre. Alors, c'est toujours un peu délicat de parler de ça à l'antenne en quelques minutes, parce que c'est bien plus profond que ça dans les recherches, mais en tout cas, comme ça, rapidement, je peux vous dire que tout ce qui touche au ménisque, à la rotule, c'est le genou. Et le genou, c'est le je et le nous. Et c'est très souvent quand on est en conflit avec quelqu'un de très proche, et principalement avec ses enfants ou ses parents. Et comme par hasard, D'accord. Il y a le je et le nous qui lâchent.
D'accord.
Pour ça que je vous posais cette question.
Très intéressant.
Deuxième chose, tout ce qui concerne les problèmes de respiration à asthme embolie pulmonaire, c'est lié à un problème de place. Je n'arrive pas à trouver ma place ou je risque de la perdre. Et vous me parlez comme par hasard de risquer de perdre votre appartement.
Oui, et puis ben, elle est bien au-delà de ça, parce qu'il y a eu un licenciement économique. Tout s'est enchaîné les uns après les unes après les autres. Mm-hmm. Donc, bon, ce licenciement économique, je l'ai pris bien, parce que, bon, c'était une suite logique des choses. On m'avait même proposé un reclassement. Donc voilà, mais je sais que je trouverai autre chose, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est l'effet millefeuille de différentes choses.
Après,
donc,
là, c'est de l'analyse intellectuelle. Moi, ce que je veux dire, c'est que sur le plan émotionnel, il y a eu deux problèmes de place. Je risque de perdre ma place et je risque de perdre ma maison.
Ah oui, en plus, sur la maison, ça a été vraiment...
Et comme par hasard, vous déclenchez un problème de poumon, vous voyez.
Oui, enfin, il y a eu une thrombose veineuse profonde, avec une artère complètement bouchée.
Il y a eu plein de choses, mais
c'est cette embolie, oui.
Si ça vous intéresse, je vous conseille les livres de Christian Flesch sur le décodage biologique.
Oui.
Il en a sorti plusieurs, vous regardez les thèmes qui vous intéressent le plus. C'est toujours intéressant de comprendre parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire que quand je comprends quel chemin j'ai pris pour arriver jusqu'à telle ou telle maladie, ça me permet de faire le chemin inverse pour aller mieux et voir où est-ce que je dois travailler. Voyez. Vous parlez de dissociation. Pour moi, chez vous, quand je vous écoute, il y a trois personnes en vous. Il y a le corps physique.
Oui. Je ne suis pas habitée, pourtant, je ne pense pas.
C'est une métaphore, évidemment. Je pense que vous n'êtes pas schizophrène, tout va bien.
D'accord, oui.
Non, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le corps physique et ce corps-là, quand il commence à déclencher des maladies comme ça, c'est qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui. Vous l'avez fait, vous l'avez compris, vous avez dit, voilà, là, maintenant, ça ne va pas, il faut que je prenne du temps pour moi.
Oui, j'ai accepté de relâcher parce que...
Ce qui déjà est formidable. Vraiment, ce qui déjà est formidable, ça veut dire que vous vous êtes écouté. Et ça, c'est bien. Mais
oui, mais enfin.
Voilà, j'allais dire enfin, c'est qu'il a fallu des années pour qu'on arrive à toutes ces douleurs et à ces souffrances-là, physiques. C'est long. Le corps physique, c'est celui qui est le plus long à réparer, pratiquement. Il a besoin de temps. Deuxième partie en vous, la partie intellectuelle, qui comprend bien, qui analyse, qui dissèque, qui a bien compris plein de choses, parce qu'en vous écoutant, j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez compris beaucoup de choses. Mais je vous rappelle, pour info, que la partie intellectuelle de notre cerveau ne gère que 15% de ce que nous sommes. Il y a donc une troisième partie qui est la partie émotionnelle.
Et quand les émotions sont pas gérées, c'est là où le corps peut lâcher.
Voilà, et j'ai l'impression que chez vous, vous êtes bien occupé de votre corps, vous êtes bien occupé de l'intellect, et qu'émotionnellement, il y a encore du boulot, il y a encore des trucs à faire de ce côté-là. Et comme tout est lié, bien évidemment, en allant travailler sur l'émotionnel. Excusez-moi, Odile, vous avez un poste de radio allumé ou quelque chose ?
Non, c'est que j'ai changé de position parce que je suis en train de prendre des notes. Donc je me remets à la position.
Ouais, je m'entendais en double, ça fait bizarre. Ah, vous êtes trois. Si vous êtes trois et que moi je suis deux, on va commencer à être nombreux à parler en même temps.
C'est pas grave, je dirais que j'écouterai le podcast. Allez-y, dites-moi, c'est mieux pour...
Le son est très bon, oui, merci. C'était bizarre. On commençait à être trop nombreuses à parler en même temps, là. Mais est-ce que ça vous parle quand je vous donne cette image un peu des trois vous qui ne sont pas au même niveau de réparation, si je puis dire ?
Alors, vous dites l'émotionnel.
L'intellectuel et le physique.
D'accord. Alors, effectivement, donc c'est un peu dissocié et ça s'est perdu. Le tout ne fait pas qu'un actuellement. Oui, effectivement, vous le dites très, très bien. C'est quelque chose qu'il va falloir que j'approfondisse. Effectivement, j'ai laissé partir une partie du physique. L'émotionnel m'échappe parce que le week-end dernier, vous parliez de pilote automatique. J'étais devenue dans la relation avec mon fils où je ne m'autorisais pas à craquer et j'étais devenue un pilote automatique où il fallait que je gère et le professionnel et le côté suivi parce qu'il y avait un suivi, le côté des perturbations de l'adolescence. Il a fallu prendre des grosses décisions et serrer vraiment du poing pour tenir et bon, ça a marché. Aujourd'hui, je me félicite de ça.
Bah, tant mieux, j'allais dire, vous pouvez être fière de vous. Vous avez tenu votre rôle et vous avez réussi.
Oui, quoi. Bon. Voilà. Oui, Par contre, ça n'a pas été facile. Et d'un autre côté, je ne me suis pas autorisée à relâcher. Donc, j'avais des problèmes de dos qui datent de fractures, de choses qui sont compréhensibles aussi. Aujourd'hui, je dirais que mon dos me fiche la paix. Mon genou également. À part cette embolie que j'ai eue cet hiver et cette thrombose, profonde, mais je pense que les trois sont un peu dissociés et que j'ai du mal à recoller les trois choses qui sont en moi pour pouvoir retourner vers l'extérieur quoi. Il faut vraiment le jour où j'ai des rendez-vous, j'y vais sans problème, je suis capable de me lever à 5h du matin, il n'y a pas de souci et tout, mais je booste plus de la même manière. Je peux tenir toute une journée, il n'y a pas de souci, mais je suis dissociée. Ce que le mental voudrait, le corps a du mal à suivre.
Odile, est-ce que les trois parties de vous veulent bien faire une petite pause ?
Oui, bien sûr.
Je dois faire une coupure pub et je vous récupère de l'autre côté. Je vous récupère
merci
tout
beaucoup.
De suite. Merci.
Merci, je vous attends.
À
merci.
Tout de suite.
La Libre Antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Odile, est-ce que vous êtes toujours là ?
Oui, je suis toujours là, Sabine. Merci pour votre écoute. Alors, moi, j'ai besoin de votre lumière parce que vous guidez tellement bien les gens, vous arrivez tellement bien à comprendre et aller tout de suite au centre et décortiquer les situations. Je vous dirais que, la réflexion que je viens de faire, c'est qu'effectivement, ces derniers temps, je me suis occupée essentiellement de la santé. Alors, de l'émotionnel, j'ai appris à gérer ce qui remontait, peut-être pas de la meilleure manière, puisque... pour le coup, là, depuis 3 ans, je me suis pas vraiment fait aider. Parfois, j'ai décroché mon téléphone, j'ai téléphoné à des professionnels quand même, mais que par téléphone. Donc, c'est pas la volonté de ne pas vous. J'ai essayé, mais on m'a donné le nom. Le médecin traitant m'a donné le nom d'un autre psychiatre, mais qui est complet actuellement. Donc, je suis un peu en attente sur le début de l'année février pour voir si on pourrait mettre quelque chose en place. D'accord. À savoir que je n'ai jamais vu cette personne et qu'il faut faire au moins 2 séances pour savoir si elle va m'écouter encore ouvrir cette valise chargée et un peu trop lourde pour justement, comme vous le dites, bien arranger, ou si c'est quelqu'un qui va m'écouter et ma problématique n'avancera pas.
Alors attendez, Odile, soyez claire dès le départ, oui. avant de prendre un rendez-vous, choisissez un psy qui est dans une mouvance de dialogue et pas
oui,
comme vous l'avez...
Comment sur Internet le savoir, voilà.
Vous ne l'avez pas parlé, il n'a pas une secrétaire ou lui-même avec qui vous pouvez discuter avant de prendre rendez-vous pour voir quel genre de thérapie il peut vous proposer. Parce qu'effectivement, si c'est pour les mêmes causes produisant les mêmes effets, si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui n'ouvre pas la bouche pendant une heure... C'est pas ce qu'il vous faut, c'est clair que c'est pas ce qu'il vous faut.
C'est le deuxième, donc le premier, je m'entendais très bien avec lui, il avait une très grande bibliothèque dans son bureau, on lisait en plus les mêmes livres, on a eu l'occasion d'échanger, mais voilà, il était il parlait très très bas et puis il décrochait une phrase par séance.
Pourquoi est-ce que vous choisissez un psychiatre plutôt qu'un psychologue ou un psychothérapeute?
Mais c'est parce que il y a foison de psychothérapeutes je vous ferai pas rire à l'antenne, mais parfois des gens qui font de l'hypnose quelques temps avant faisaient du soin manucure et tout ça.
Non,
donc,
je parle de psychothérapeute reconnu, diplômé et reconnu. Avec qui il y aurait justement des thérapies qui sont plus dans le dialogue et dans l'échange qu'avec un psychiatre?
Alors, il faudrait que je fasse quoi, le MDR?
Oh, je ne suis pas sûre chez vous. Je suis pas sûre. Je suis pas persuadée de ça. Par contre, il me semble que vous devriez plus vous tourner vers un psychologue ou un psychothérapeute qu'un psychiatre. Chercher quelqu'un qui soit vraiment dans l'échange et dans le dialogue. Mais avant ça, je voudrais revenir à quelque chose, parce que pendant la pause, j'ai une image qui m'est venue en pensant à vous. Quand on parlait de dissociation, vous savez, très souvent, quand on a des problèmes de santé, de plus en plus, on dit « mon corps ceci, mon corps cela ». Et c'est presque comme si les gens avaient l'impression qu'ils ont une tête qui va jusqu'au cou et qu'après, il y a un corps. Mm-hmm. Et c'est souvent normal quand on a des maladies, parce qu'on se dissocie de ça. Donc effectivement, il y a cette partie du corps sur laquelle vous avez travaillé. Il y a la partie intellectuelle sur laquelle vous avez de temps en temps ponctuellement travaillé avec un psy. Et il y a la partie émotionnelle où vous avez travaillé quand vous avez pu. Mais vous n'avez jamais travaillé les trois en même temps. Et moi, ce qui me semble, c'est qu'en attendant de commencer une thérapie plus régulière et sur le long terme, il y a quelque chose qui vous ferait beaucoup de bien, c'est vraiment de la méditation pour recentrer les trois parties, c'est-à-dire être présente en même temps dans mon corps, dans mon cœur et dans mon esprit, dans mon cerveau.
Alors ça, c'est ce que je fais depuis à peu près 3 ans. Enfin, je le fais seule avec des méthodes sur Internet et tout ça. Par contre, j'ai fait en Outre-mer de la sophrologie. Mmh. Donc j'avais appris avec quelqu'un et puis d'ailleurs il m'a laissé des techniques, comment méditer, comment évacuer par la respiration quand ça ne va pas. Donc je me retrouve parfois les jambes au long du mur, en train d'essayer de respirer.
Je comprends,
plaisir.
C'est pour se calmer ponctuellement. Mais c'est curieux si vous faites ça, parce que je ne vous trouve pas centrée. Et je pense que le premier truc pour vous maintenant, pour récupérer des forces, c'est de vous centrer, recentrer cette énergie du corps, du cœur et de l'esprit.
D'accord.
Et c'est normalement ce qui devrait arriver si vous méditez bien. Peut-être que vous ne méditez pas dans le bon sens pour l'instant. Arrivez vraiment à recentrer tout ça, les trois ensemble. Parce que vous n'êtes pas différentes parties, vous êtes une seule, entière.
D'accord.
Bien sûr, vous êtes faites de différentes parties, mais elles ont besoin de se réconcilier, ces trois parties-là, chez vous.
Oui, parce qu'il y a une partie, le mental, que le mental voudrait. Alors bon, je me suis occupée du corps. Je dirais même que le corps, je l'ai bien reconsolidé depuis ce qui m'est arrivé. L'embolie avait laissé quand même pas mal de... j'ai beaucoup, beaucoup évolué dessus. Je suis en phase d'avoir retrouvé une très bonne mobilité et tout ça. Par contre... cette dame parlait avant depuis août l'année dernière jusqu'à août cette année, j'ai pris 38 kilos. Je suis quelqu'un, quand ça va pas,
vous remplissez les creux,
les trous par des addictions. Donc l'addiction à alimentaire au même, enfin, n'a pas les mêmes effets, mais fait aussi des dégâts sur le corps et a les mêmes... enfin, bon, voilà, c'est la même chose que quelqu'un qui boit ou que quelqu'un qui a d'autres addictions, certainement. Voilà.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas un trou, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas un trou à remplir, il y a un trop plein d'émotions à exprimer.
Oui.
Parce que
évacuer.
Sinon, si ça se remplissait comme ça, ça se saurait. C'est sans fin. Ce trou-là est un vide, est un trou sans fond. Donc on le remplit de nourriture, on le remplit d'alcool, on le remplit de ce qu'on veut, mais on n'y arrive jamais parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Non.
Et quand on règle les problèmes avec la bouche, certes, mais pas en la remplissant, en parlant.
Ben oui.
C'est ça qui est important. En parlant, et visiblement, vu la personnalité que vous semblez avoir, en étant aussi conseiller et pas simplement parlant dans le vide, comme vous dites, si c'est juste pour poser la valise et la reprendre en sortant, c'est pas forcément ce que vous cherchez, vous.
Ben voilà, l'ouvrir et de repartir avec les mêmes choses intactes et telles quelles dedans, non. C'est malheureusement, j'ai rien contre les psychiatres, respect à cette profession. J'avais beaucoup de sympathie pour le monsieur qui m'a suivi pendant quelques temps et j'y allais toutes les semaines et j'étais même absente à mon travail parfois pour aller le voir et je le faisais très sérieusement. Mais bon, avec le temps. Bon, ça m'a permis d'évacuer, mais d'évacuer, de repartir pour les années suivantes. Donc, j'ai perdu du temps parce que ça s'est fait il y a 8 ans déjà. Donc, ça s'est fait et ça n'a rien solutionné puisque en soi, ça reste. On repart avec cette valise, on ferme et on remet les mêmes choses, peut-être pas dans le même ordre, mais elles sont toujours là, quoi, parce qu'elles sont pas traitées. Donc, est-ce que ça vient de moi ou...
Non, je pense que ça vient du fait...
Il y a quelque chose à faire, quoi. Il va falloir faire évoluer. Parce que quand je vous entends, tout ce que vous donnez comme petite chose, ça permet d'évoluer. Bon, par exemple, quand vous donnez des métaphores et tout ça, je me dis, mais oui, c'est vrai, ça, tu l'avais lu, tu l'avais oublié. Alors, des fois, je suis là en train d'écrire à 1h du matin. Mais bon, je le fais avec plaisir. Voilà. Donc j'ai besoin de vous, je vais arrêter de parler, je vais vous écouter attentivement, si vous avez d'autres choses à me suggérer.
Ben, je vous dis pour l'instant, ce qui me paraît vraiment important, c'est ce travail. Et vous voyez, j'irai même un peu plus loin, quand vous faites de la méditation, visualisez-vous vraiment centré. Moi j'ai tendance à le faire par exemple en visualisant que je deviens le tronc d'un arbre.
Ah ça, je l'ai fait dans des parcs, je suis allée le faire au long d'un arbre.
Mais attention, que vos racines soient votre corps, que le tronc soit votre cœur et que les branches là-haut soient votre cerveau, le côté intellectuel, que tout soit centré, que tout fonctionne ensemble, de haut en bas et de bas en haut. Rien que ça.
Ah oui,
rien que ça. Déjà, travailler sur cette image-là pour vous recentrer vraiment et ouvrir tout. Ouvrir les canaux entre le haut et le bas, si vous voulez, entre le corps et l'esprit. On peut même aller plus loin, on peut aller jusqu'à l'âme, si on va encore plus haut que ça.
Oui, arrêtez de se dissocier, parce que effectivement, dans ce que vous me dites, moi, ça me renvoie ça. Je suis peut-être pas toujours en 3 morceaux, mais généralement en 2 morceaux, quoi. Je suis dissociée complètement. Vous le dites bien. Bon, il y a l'émotionnel. Alors bon, effectivement, je trinque-balle ces vieilles valises que tout le monde peut trinque-baller. Et des fois, je dis même à des gens qui sont autour de moi, mais bon sang, prends des sacs poubelles et envoie ça dans des sacs poubelles au lieu de trinque-baller ça pendant des années. Mais on est des humains et l'humain fait qu'on trinque-balle ça pendant des années. Et après, il y a le mental et...
Odile, on va reparler dans un instant de ces images dont vous parlez, de valises et de sacs poubelles. Si vous voulez bien, on en reparle juste après les infos, d'accord ?
Merci, je vous attends.
À tout de suite.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
presque 5 minutes, nous sommes encore ensemble pendant une petite heure sur cette antenne, sur cette libre antenne. Si vous souhaitez prendre la parole ce soir, vous pouvez donc continuer à nous appeler. Vous faites le 3921, Amandine et Hassan sont prêts à vous accueillir au standard et à vous accompagner jusqu'à moi. Et pour nous joindre par SMS, vous le savez, c'est le 73921 en commençant par le mot « nuit ». Des SMS comme celui que Michael vient d'envoyer, on parlait de méditation tout à l'heure, il nous dit « oui ». La méditation est très efficace, on n'atteint jamais le vide cérébral entièrement, mais elle contribue à détendre l'esprit et par conséquent le corps.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Et on va retrouver Odile, vous êtes toujours là Odile?
Oui, merci Sabine. Alors, merci déjà pour ce que vous m'avez donné comme image, cette image de l'arbre, des racines jusqu'à sa cime. Il va falloir que je travaille certes sérieusement ça avec mon personnage, c'est-à-dire de rassembler un peu ce qui est dissocié en moi et qui crée justement cette défaillance de pouvoir de nouveau s'investir pleinement dans la vie. Parce que effectivement, je pense que mon corps est en deux parties. Il y a ma tête qui est coupée de mon corps. Voilà, oui, effectivement.
Et une
l'image
autre...
que vous avez donnée
oui.
est très juste. Excusez-moi. Oui.
Non, c'est, je vous écoute. Il y a une autre image. Vous avez plusieurs fois mentionné le mot valise ou le mot sac poubelle. Peut-être aussi pourriez-vous commencer votre méditation en visualisant soit des sacs que vous jetez, soit une valise que vous videz ou que vous rerangez.
Ah oui.
Ou demandez simplement à votre inconscient de le faire. Simplement, en fermant les yeux, dites voilà mon inconscient, fais le ménage, fais un grand tri, débarrasse-moi de tout ce qui est absolument inutile.
Oui, voilà. Comment se délester? Alors ça, c'était ce que j'ai réfléchi pendant la pause. Comment se délester de toutes ces choses qui nous envahissent la vie et qui finalement ne nous appartiennent pas, sont parfois le fruit de nos aïeuls ou de nos parents.
Mmh.
Et effectivement, c'est des fois des choses lourdes. C'est des choses qui nous ont construites aussi et dont on doit... traîner ça toute une vie et dans les moments les plus fragiles, c'est généralement ces émotions-là qui remontent. Et l'image du sac poubelle, est, excusez-moi, c'est pas très, très glamour pour les auditeurs, pour l'antenne Europe 1, mais néanmoins, comment se délester des choses qui nous envahissent et qui remontent à la surface, qui sont des choses...
qui ne vous appartiennent même pas, comme vous dites certaines
ouais.
fois. Est-ce que vous avez déjà...
Je pense celle de nos parents, oh, oui, néanmoins, voilà.
Parents et même, ouais. et même quelquefois plus loin, oui.
Ouais, ouais, ouais.
Est-ce comment, que vous m'avez déjà entendu raconter la métaphore du train de la vie?
Certainement, mais j'accepte de le réentendre.
Alors, je sais que dans ces cas-là, c'est compliqué, parce que les gens qui l'ont déjà entendu disent « oui, on la connaît déjà », et d'autres disent « mais nous, on n'a pas entendu ». Donc, j'aimerais bien vous la lire, parce que je trouve qu'elle correspond tellement à ce que vous venez de dire, et que peut-être
plaît,
ça peut déjà semer des graines dans votre inconscient et faire travailler des choses. La vie, c'est un peu comme un train. Le train de la vie, en quelque sorte. Moi, je dis ça parce que je m'en suis rendu compte en regardant passer des trains. Certains trains ont une locomotive très puissante et ont du mal à avancer. Alors que d'autres ont une locomotive très modeste et filent bon train, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Alors un jour, je me suis intéressée au train de la vie d'une petite fille qui s'appelait Loli. Le train de sa vie à Loli, il avait vraiment du mal à avancer, et Loli ne comprenait pas pourquoi elle en était malheureuse. Alors toutes les deux, on décida qu'on allait comprendre. On quitta la locomotive, on monta sur le premier wagon. La porte du premier wagon s'ouvrit sans peine, et c'est ainsi qu'on découvrit qu'il était plein, plein de souvenirs et d'expériences de toutes les couleurs. Et c'est un grand sourire que je vis s'afficher sur le visage de Loli. « C'est sympa, me dit-elle. Je découvre que dans ce premier wagon, il y a tous mes bons souvenirs, toutes mes bonnes expériences. C'est sympa de les savoir là, si près de moi. » Je pesais le premier wagon et découvris qu'il ne pesait rien, même pas un gramme, même pas le poids d'une plume. Ce n'était donc pas lui qui empêchait le train de la ville de Loli d'avancer. Alors nous décidâmes d'aller voir dans le deuxième wagon. La porte s'ouvrit sans peine, l'intérieur était sombre. « Oh, il n'y avait pas grand-chose dedans, mais je vis le visage de Loli s'assombrir lui aussi. « Oh, me dit-elle, je découvre que dans ce deuxième wagon, il y a tous mes mauvais souvenirs, toutes mes mauvaises expériences. Oh, il n'y en a pas tant que ça, mais ils sont tous là. » Je pesais le deuxième wagon et trouvais qu'il pesait lourd. Enfin, pas très lourd. En tout cas, pas suffisamment lourd pour expliquer que le train de Loli n'avance plus. Et c'est à ce moment-là qu'on découvrit qu'il y avait un troisième wagon. On monta dessus, on essaya d'ouvrir la porte, mais c'était impossible car elle était fermée à clé. Au bout d'un moment, Loli me dit « Écoute, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce troisième wagon, mais ce que je sais, c'est que c'est le train de ma vie à moi qui le traîne. Alors j'ai le droit de savoir. » Et elle avait raison, bien sûr. Alors j'allais chercher une masse et je défonçais la porte du troisième wagon. C'est ainsi qu'on découvrit qu'il était plein, plein à craquer de souvenirs, d'expériences tout aussi tristes les uns que les autres, et puis aussi d'abandon, de trahison, d'injustice, de rejet, d'humiliation, de devoir, de culpabilité. Je crois même qu'il y avait de la peur et de la violence. Mais c'est la surprise que je vis s'afficher sur le visage de Loli. Je comprends vraiment pas. Bien sûr, je connais ses souvenirs et ses expériences, on me les a racontés jadis, et puis je connais le reste aussi, malheureusement, pour l'avoir croisé plus d'une fois dans ma vie. Mais ce que je comprends pas, c'est que ce que tout ça fait dans un wagon attaché au train de ma vie à moi. Parce que ce qui est à moi, ce qui m'appartient, c'est déjà dans le deuxième wagon. Et ce qu'il y a dans le troisième wagon, c'est pas à moi, ça appartient à d'autres. Je crois même que je sais à peu près à qui ça appartient. En tout cas, c'est pas à moi. Et je comprends pas pourquoi c'est le train de ma vie à moi qui doit traîner un wagon de choses qui appartiennent à d'autres. Je pesais le troisième wagon et découvris qu'il pesait des tonnes et des tonnes. Et que c'était lui, bien sûr, qui empêchait le train de la vie de Loli d'avancer. Loli me dit « Je sais pas ce que ce troisième wagon fait accrocher au train de ma vie à moi. Mais ce que je sais, c'est que ce qu'il y a dedans, c'est pas à moi. Je n'ai donc aucune raison de continuer à le traîner à la place de ceux à qui ça appartient. Alors voilà. Voilà ce que je vais faire. Je vais arrêter mon train à la prochaine gare. Je le décrocherai mon troisième wagon et je le laisserai là en gare. Comme ça, si les propriétaires de ce qu'il y a à l'intérieur ont l'envie ou le courage de récupérer ce qui leur appartient, eh bien ils pourront le faire. Mais qu'ils le fassent ou pas, de toute façon, pour moi, c'est fini, c'est terminé. Moi, ça ne m'intéresse plus, ça ne me concerne plus, c'est terminé. » Et je la vois encore arrêtant son train à la gare, descendant de la locomotive, décrochant le troisième wagon, remontant dans la locomotive et redémarrant son train qui immédiatement prit de la vitesse. Et je la vois encore tout sourire, me faire de grands signes de la main pour me dire au revoir. Et je l'entends encore me crier « C'est génial, tellement ça marche bien maintenant, tellement c'est facile. » Et Loli et son train disparurent à l'horizon, à fière allure. Voilà Odile.
Eh oui, voilà la chose, la solution. Combien vous êtes fabuleuse, Sabine. C'est pour ça que je m'adresse à vous ce soir. Je pense que voilà, beaucoup ont des problèmes et on traîne tous un peu ce troisième wagon qui est inutile, où chacun peut trouver dans les choses que vous avez pu citer, les choses qui sont lourdes à porter, qui ne nous appartiennent pas nécessairement et qu'on traîne derrière soi. Et combien de lourdeurs inutiles et qui nous empêchent de nous mouvoir et d'aller plus léger vers l'avant. Parce que je me dis que quand même, bon, 52 ans, peut-être qu'il y a encore 50 ans devant, alors donc...
J'espère bien, parce que profiter. Je suis à peu près dans ces eaux-là aussi, donc j'aimerais voilà. Bien qu'il y ait beaucoup de choses devant encore.
Et oui. Voilà, donc autant profiter, et bon, j'avais dit à 50 ans, toute la vie devant soi, c'était autre chose, mais sauf que bon, ça vient pas comme je l'avais prévu, donc il faut d'abord ranger, archiver les dossiers, chose que j'accepte, mais je trouve que le temps est un peu long, et je pense que cette image de train de la vie, oui, il va falloir se délester, ce que je disais autrement, moi... Moins joli que ce train de la vie, hein, des choses qui sont inutiles à traîner, puisque c'est le passé et il faut voir devant.
Et ce qu'il y a d'intéressant avec les métaphores, c'est que ça sème des graines dans l'inconscient.
Oui, c'est ça. Ça laisse des belles images.
On l'écoute, on l'écoute à plusieurs niveaux. Quelquefois, il y a des gens qui ne comprennent pas du tout, qui me disent « Oui, avec vos contes pour enfants, bon, bah, c'est qu'il y a une partie d'eux qui n'est pas encore ouverte à comprendre ça, mais il y a une partie bien plus profonde de l'inconscient qui enregistre tout ça et qui commence déjà un travail. » C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est fabuleux.
Plus on l'écoute, oui. Et plus on l'écoute à certains moments de la vie, une métaphore ou une image n'a pas la même signification. On peut évoluer sur même ce train dont vous venez de parler. On peut voir les choses différemment et évoluer encore en le réécoutant. Donc c'est pas inintéressant de le réentendre.
En fonction de là où on en est sur son chemin de vie, bien sûr, là, on n'entend pas la même chose.
C'est clair. C'est très, très clair.
C'est comme des livres, quelquefois, Quelquefois, il est surprenant d'aller relire un livre quelques années après, et on se dit, c'est curieux, je n'avais pas compris ça la première fois. Parce qu'en fait, on pioche dedans ce dont on a besoin au moment précis où on le lit.
Et on approfondit différemment,
bien sûr.
Donc, est-ce que vous auriez effectivement un livre à me conseiller? J'ai bien noté le premier.
Le premier, c'est-à-dire vous parlez duquel là?
De Christian Flesch.
Ah oui, tout à l'heure, oui, je pensais que vous disiez le premier que j'avais cité à l'antenne. Ça dépend dans quel domaine. J'ai parlé hier du livre de Bertrand Piccard, Changer d'altitude.
Oui, ça, oui, je l'ai déjà eu en main.
Qui pour moi est vraiment un livre intéressant.
D'accord.
Il y a le livre de Deepak Chopra, L'incroyable pouvoir de notre cerveau.
D'accord.
Qui est aussi un livre très intéressant pour comprendre comment on fonctionne. Et pour reprendre un peu les rênes, je suis en train de regarder dans les livres que je pourrais vous conseiller. Le fabuleux pouvoir de votre cerveau, pardon, c'est pas l'incroyable, c'est le fabuleux pouvoir de votre cerveau, Deepak Chopra.
D'accord, le fabuleux pouvoir de votre cerveau, d'accord.
Ça c'est vraiment un bouquin intéressant, oui, dites-moi.
Et pour travailler cette image de l'arbre, est-ce qu'il y a des possibilités, par exemple par YouTube ou autre non, c'est soi-même la méditation où il y a d'autres possibilités.
Je sais, j'ai beaucoup de patients qui me parlent de l'application qui s'appelle Petit Bambou pour la méditation, qui paraît-il est très bien. Je vous avoue que moi, je ne l'ai pas testé, donc j'en sais rien. Mais ça, après, d'accord, c'est vraiment très interne. Vous n'avez besoin de personne pour créer cette image, cette imagerie-là, bien sûr. Ça, d'accord, c'est important. D'accord. Et puis, si vous vous intéressez au transgénérationnel, je vous invite à découvrir aussi les livres de Anne Ancelin-Schussen-Berger.
Oui, ça, je l'ai déjà.
Il y a Aïe Mes Aïeux, mais il n'y a pas que ça. Je sais qu'il y en a plusieurs dont je n'ai pas les titres sous les yeux, mais je pourrais les mettre sur ma page Facebook demain. Des livres qui permettent de travailler sur ça aussi, pour se libérer, pour aller décrocher le troisième wagon dont on parlait là. Elle donne quelques exercices pratiques aussi qui peuvent être intéressants.
Il y a même aussi des étapes de vie personnelles, quoi, où on n'a pas besoin d'épiloguer davantage sur. Parfois, on traîne aussi, pas des douleurs, c'est pas au stade de la douleur, mais ça reste des lourdeurs. Disons que les douleurs se transforment un peu en lourdeurs, et on traîne des choses de vie, d'étapes personnelles qui sont inutiles aussi. Et comment se délester de ça? Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis un peu dissociée? Est-ce que j'ai fait un burn-out ou est-ce que j'ai fait une clarification
Je dirais que les mots pour le coup n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est d'avancer.
C'est ce que mon médecin prétend disait.
Oui, c'est sympa. Quelle que soit l'étiquette qu'on met dessus, ça ne change pas vraiment à ce qui se passe dans le fond. Mais j'ai perdu le fil de votre question là, pardon. J'étais partie sur les images de la méditation. Vous me disiez comment se libérer de ce qu'on porte du passé qui est trop lourd. Déjà, en prenant conscience, c'est une première chose extrêmement importante. Ensuite, en travaillant sur ce qu'on appelle la fidélité inconsciente. D'abord, il y a des choses qu'on garde parce qu'on ne sait pas. Alors, quand on a pris conscience, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Déjà, on sait.
Ça, vous en parlez régulièrement à l'antenne. Et ça, quand on a un peu écouté ce que vous dites, les choses qu'on dupilique parce que c'est un peu une fidélité à certaines choses, certaines croyances et tout ça. Donc ça, on arrive à avancer dessus. Maintenant, comment travailler pour justement...
En s'autorisant à fermer cette porte-là du passé et en s'autorisant à aller mieux, des fois tout simplement.
Oui.
De toute façon, c'est une toute petite phrase, on peut mettre des années à y arriver. S'autoriser à être heureux, c'est vraiment décrocher ce troisième wagon ou laisser les valises. C'est même plus aller ranger ses valises, c'est les laisser là où elles sont et repartir légère.
Décrocher le troisième wagon, en ce qui me concerne, l'image que vous avez envoyée de ce train de vie... me correspondent très très bien. Oui. Il y a au moins deux, trois choses dans ce wagon très inutiles et qui empêchent d'avancer.
Donc
je vais me concentrer.
Exactement. Oui. Si vous avez pris conscience de ça, c'est intéressant. Vous allez pouvoir travailler.
Oui. Et je me concentrerai sur tout ce que vous m'avez dit ce soir. Je vous remercie beaucoup.
Avec grand plaisir. Je mettrai demain sur ma page Facebook les références des livres sur le transgénérationnel avec Anne-Antelin Schützenberger.
Oui, elle est très. Par contre, c'est très efficace. Hein. Je l'ai là en livre de chevet encore actuellement parce qu'il n'a pas été rerangé.
Duquel vous parlez là?
Les transgénérationnels, l'analyse transgénérationnelle dans les familles, enfin ce qu'on traîne dans les familles.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle en a sorti plusieurs. Il y a plusieurs livres sur ce thème.
D'accord.
Peu importe, je mettrai demain les références sur ma page, vous pourrez les retrouver. Notamment celui qui permet de faire des exercices et de travailler sur soi là-dessus.
D'accord,
Odile.
Écoutez, je vous remercie beaucoup.
Merci de votre appel, merci de votre confiance surtout.
Permettez-moi, je suis vraiment en admiration devant les façons dont vous permettez aux gens d'avancer, les conseils que vous leur donnez, mais aussi toute l'empathie que vous dégagez. Et, permettez-moi de vous témoigner cette reconnaissance.
C'est gentil, ça me touche beaucoup, Odile. Merci,
merci
beaucoup.
Voilà.
Je fais de mon mieux,
merci
en tout cas, ça je vous le jure. Même si ce n'est pas forcément toujours parfait, je fais de mon mieux.
Non, mais c'est très très bien ça. Je pense que ça aide beaucoup de gens.
Tant mieux.
Ils sont peut-être même isolés. Merci beaucoup.
Merci à
Sabine.
Vous, Odile. Je vous embrasse.
Bonne soirée à vous et à l'équipe. Merci, au revoir.
Au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et je vais faire maintenant la connaissance de Claire. Bonsoir à vous, Claire.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel.
Qu'est-ce qui vous amène?
D'abord, j'espère que je ne vais pas être trop terre à terre par rapport à l'auditrice qui vient de s'exprimer, parce que ma préoccupation est, simple, au ras des pâquerettes, mais en même temps, c'est une question qui m'angoisse et me préoccupe beaucoup, à savoir que j'ai une grande fille qui a 33 ans, qui vit paxée dans le Jura,
oui,
et qui a eu un petit garçon qui a maintenant 9 mois. Bon, tout se passait à merveille, à savoir qu'elle adore son petit garçon qui est un trésor.
Et vous?
Et puis là, comment?
Et vous aussi, vous êtes gaga?
Gaga, je suis pas gaga, je suis en admiration aussi. Je trouve comme sa maman, je les trouve terribles tous les deux. Oui.
C'est le plus beau du monde.
J'espère que je suis pas trop gâteuse quand même. Bon, alors voilà ce qui se passe. Quand je vous disais que ça me préoccupe, ce que ma fille vient de m'annoncer, c'est qu'elle me l'a dit par téléphone, à savoir que donc jusqu'à présent, elle n'a pas travaillé puisqu'elle élevait son petit garçon. Et là, elle a envie de s'éclater à nouveau, de se ressentir un peu une femme davantage libérée, pas de nouveau, si vous voulez, trop dans les couches culottes. Mmh. Et pour faire bref, donc elle m'a annoncé que elle organisait un voyage au minimum pour 3 mois au Mexique, avec son petit garçon et sans le papa dont je vous ai parlé, avec qui elle est paxée.
Elle va faire quoi pendant 3 mois au Mexique?
Eh bien, c'est justement toutes les questions qui m'inquiètent, qui me font vous téléphoner, parce que donc elle m'a annoncé ça par téléphone. Et je lui ai effectivement demandé, mais dans quel cadre tu envisages de partir, en quelles conditions. Bon, elle m'a répondu un minimum à mes questions. Elle m'a répondu vraiment très peu de choses, à savoir que c'était un voyage touristique et culturel. Pour ne plus être dans le train-train de la maman qui s'occupe uniquement de son bébé. Enfin, moi, j'ai essayé de ne pas avoir l'air trop surpris, à savoir, comme je vous ai dit, angoissé. Mais ce n'est pas les questions qui m'ont manqué, hein, à savoir, comme vous dites, dans quelles conditions, aussi bien au niveau de la logistique, financièrement, tout ça. J'ai pas trop osé insister parce que je sentais qu'elle était un petit peu beaucoup sur la réserve, qu'elle m'annonçait ça, mais que je n'ai, que c'était son, sa décision, son projet, et que elle me demandait pas de.
Oui, elle ne vous demandait pas votre avis, ça j'ai bien compris, mais je trouve
exactement.
Ça très très surprenant par rapport à son compagnon. C'est quand même, elle va séparer le papa de son enfant pendant 3 mois à un âge où c'est, ça compte, 3 mois.
Bien entendu que ça compte.
C'est quand même, ça c'est très bizarre. Vous avez réussi à parler avec lui ou pas du tout?
Avec lui, le compagnon?
Oui.
Non, pas du tout. C'est, ils sont paxés, ils habitent à l'autre bout de la France et lui, j'ai déjà vu 4 fois dans ma vie. Et de toute façon, je ne me vois pas du tout lui poser des questions sur c'est à elle, je crois, de, c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais ton ami, ton compagnon, lui, comment il vit ça? Bon, elle m'a dit, ben, ça c'est notre problème, mais je ne me vois pas du tout demander à son compagnon ce qu'il en pense. Si.
Alors deux choses, si elle vous a répondu ça c'est notre problème, ça veut déjà dire qu'il y a un problème. Et qu'effectivement, quelque chose me dit que c'est peut-être aussi une manière de faire un break entre eux, parce que c'est quand même très étrange de partir 3 mois quand on a un bébé. Donc peut-être c'est de ce côté-là qu'il y a quelque chose qu'elle ne vous dit pas. Deuxièmement, moi, ça, il ne s'agit pas de l'appeler pour lui poser des questions, ni pour être intrusive, mais de l'appeler simplement vous disant que vous êtes inquiète. Et savoir comment... comment...
Ah ben, ça l'a senti, hein.
Non mais d'en parler avec lui, c'est ça que je veux dire. Vous n'êtes pas en mauvais terme avec lui, vous l'aimez bien.
Mais bien sûr, mais je vous ai dit, je l'ai vu 4 fois dans ma vie.
Mais et ça, c'est, et alors? C'est pas grave, ça n'empêche pas de se parler.
Bien entendu. Mais autant avec sa fille, j'espère pouvoir revenir sur ce qu'elle m'a dit et lui parler beaucoup plus exactement du pourquoi, du comment, etc. Mais lui, je me sentirais tout à fait indiscrète de lui poser la moindre question, c'est pas...
Il ne s'agit pas de poser des questions, Claire. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas ça le but. De dire simplement que vous êtes inquiète. Lui demander son point de vue sans poser de questions, sans être inquisitrice, simplement lui dire, voilà, je t'appelle ou je vous appelle parce que, je ne sais pas, je ne comprends pas bien ce qui se passe et je suis inquiète. Juste voir comment il réagit. Ça serait déjà une piste. Quelle est l'échéance qu'elle vous a donnée, votre fille?
Après Noël, là, elle me dit qu'elle est en train d'organiser... Mais j'ai trouvé que j'ai essayé d'être à l'écoute, mais de pas. Je sentais qu'elle était un peu sur la défensive par rapport à des questions précises.
C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière. Parce que si c'était si simple, bah elle vous dirait voilà, écoute, j'ai envie de prendre l'air, je pars, je vais m'éclater pendant 3 mois. C'est un peu bizarre aussi. On s'éclate pas avec son bébé. On part pas faire un voyage culturel ou touristique avec un bébé. Il va falloir qu'elle s'en occupe de son enfant. Donc ça ne va pas être l'éclate, elle ne va pas passer ses nuits en boîte, elle ne va pas aller s'amuser non plus. Donc, c'est...
Non mais ça, j'en ai bien conscience. Hein. Vous savez, si je vous appelle, c'est parce que ça m'inquiète et que je ne suis pas en train du tout de penser qu'elle va pouvoir justement faire la fête. Mais une chose est certaine, c'est que son voyage n'a pas l'air de l'avoir bien bien organisé dans le sens où c'est un peu bavacool, hein. Les quelques questions où elle m'a répondu, c'était ses points de chute, ses quelques amis qu'elle a là-bas. Mais le reste, pour moi, je suis assez terre à terre. Hein. À savoir, questions bizarres, assurance, argent, etc. Qu'en est de l'argent?
C'est une grande fille en même temps, elle va gérer. Quelle est sa personnalité? Est-ce que c'est quelqu'un de cadré, de sérieux ou un peu fofolle?
C'est pas quelqu'un, c'est ma grande fille qui a 33 ans, que je trouve extrêmement intelligente. Elle est ni par moment, elle est plutôt un peu originale, mais elle est très débrouillarde, elle a beaucoup de qualités d'intelligence et c'est vrai qu'elle sait très bien s'organiser. Mais de là si vous voulez organiser un voyage à montagne ou je ne sais où et puis partir au Mexique, pour moi c'est le jour et la nuit, hein. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment étonnée, c'est la façon dont elle me parlait. Et c'est vrai que ça aussi ça m'a préoccupée, c'est son budget, c'est peut-être terre à terre, hein, mais pour moi quand on a beaucoup d'argent, on peut toujours, quoi qu'il arrive, prendre un avion et repartir en, bon, en deux temps, trois mouvements. Mais quand on part avec un minimum d'argent, c'est déjà tout à fait autre chose. Enfin, c'est beaucoup de questions qui ont été sans réponse. Et c'est le pourquoi je vous appelle, parce que ça me, oui, ça me préoccupe. Mais si je lui dis, bon, tu sais, ça m'inquiète, je sais que je connais d'avance sa réponse, elle me dira, oui, ça y est, tu cherches à me culpabiliser. Donc, il faut que je joue assez, comment dirais-je, d'une façon assez délicate entre le fait que, bien entendu, c'est, pour moi, c'est pas du tout quelque chose de facile, hein, de partir comme ça avec un bébé. Comme vous dites, c'est la première fois que je suis confrontée à ce genre c'est pas vraiment un problème, mais c'est une décision que je trouve particulière. Et est-ce que ça cache quelque chose par rapport à leur couple? Ça, c'est possible. Mais là encore, c'est pas. Je me vois mal lui dire, tu veux faire un break par rapport à ton compagnon. Je ne me voyais pas non plus poser cette question-là.
Non, mais il y a plusieurs choses là. Vous me dites, la première chose, c'est que vous me dites que votre fille est plutôt intelligente, elle est débrouillarde. Donc moi, je ne me ferai aucun souci pour elle. Maintenant, voilà, elle est jeune, elle part dans un pays civilisé, elle va se débrouiller. Ça ne me paraît pas un souci. Elle est largement assez grande pour gérer ça toute seule. La deuxième chose, c'est que vous faites les questions et les réponses. C'est-à-dire que ça m'ennuie souvent quand quelqu'un me dit « Oui, mais si je lui demande ça, il va me répondre ça. Ben, » vous n'en savez rien, attendez de poser la question pour voir ce qu'elle va vous répondre. Et peut-être
alors, c'est des questions que j'ai posées. Hein.
Alors peut-être ne soyez pas dans les questions, mais simplement parlez de vous. Au lieu de lui dire « Pourquoi est-ce que tu ceci, pourquoi cela, est-ce que » dites-lui simplement « Moi, je ne suis pas bien, je suis inquiète, j'ai peur pour toi, je me pose des questions, je comprends. » Enfin voilà, quelque chose qui puisse être plus en ouverture que dans le questionnement qui pourrait la braquer. Et la troisième chose, c'est que spontanément comme ça, j'ai quand même tendance à penser qu'il y a quelque chose dans son couple. Parce qu'elle n'a pas l'air à l'aise, elle ne vous parle pas de ça comme d'un truc qui a l'air léger. Elle vous répond « c'est notre problème ». Et une fois de plus, je pense que séparer un bébé de son papa pendant 3 mois, ce n'est pas un signe de grand amour dans le couple ou dans la famille. Quoi. Peut-être je me trompe, hein, mais...
C'est les questions que je me pose, mais de là à lui poser à elle...
Non, sans lui poser, vous pouvez simplement en parler en lui disant « voilà, je m'inquiète pour toi. Est-ce que tout va bien pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? Est-ce que tu es sûre que tout va bien ?» Vous voyez, en y allant doucement, parce que j'ai bien compris qu'elle va se braquer assez facilement si vous posez trop de questions. Elle n'a pas envie là, de vous dire certaines choses.
Et je vous ai dit, elle parle d'ingérence ou de la culpabiliser. Et ce que je peux faire pour elle de mieux, son père aussi, c'est de lui donner de l'argent, ça c'est sûr. Mais les questions, quand vous me dites que je pose pas de questions ou je pense qu'elle va... C'est parce que si vous voulez, c'est pas d'hier que je la connais. Hein. Je sais très bien qu'elle supporte pas ou elle me parle d'emblée ou je l'écoute, mais je suis presque sûre que si je lui avais dit du côté de ton compagnon, c'est pas un petit peu difficile, etc., elle m'aurait renvoyé dans mon territoire. Hein.
C'est bien pour ça que je vous dis, ne posez pas de questions, parce qu'elle n'a pas envie que vous lui posiez des questions. Mais parlez-lui de votre inquiétude. D'autre part, est-ce qu'elle vous a demandé de l'argent?
Depuis qu'elle élève son petit garçon, oui, son père à moi, elle n'a pas repris, je crois vous l'avoir dit, non? Qu'elle n'a pas repris sa vie professionnelle. Et comme ils sont paxés, ils ont un budget, je ne sais pas exactement, hein, mais apparemment, ils ont un budget séparé. Et chacun a son budget.
Mais là, pour ce projet-là, est-ce qu'elle vous a demandé de l'argent pour le départ?
Non, elle m'a simplement dit qu'elle avait des économies, mais ces économies, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que comme elle nous a demandé de l'argent au fur et à mesure de sa grossesse, c'est pas maintenant qu'elle nous en demande spécialement pour ce voyage.
Non, parce que vous me dites, la meilleure chose à faire qu'on pourrait faire, c'est lui donner de l'argent. Mais pour l'instant, elle vous en a pas demandé, en fait, sur ça.
En disant qu'elle avait peu d'économies et que c'était sa préoccupation pour son voyage. C'était indirectement quand même, jusqu'à présent, quand on lui a donné de l'argent, c'est un peu comme ça qu'elle a toujours présenté les choses. Elle ne le demande pas directement, mais enfin, elle demande
elle
quand même.
Elle fait comprendre. Bah alors c'est peut-être une piste, c'est peut-être un petit filon à tirer pour la faire parler. En l'appelant, lui disant, écoute chérie, je me suis dit peut-être tu aurais besoin d'un peu d'argent pour ce voyage. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que je peux t'aider? Comment je peux t'aider? Juste ouvrir cette porte-là et vous voyez ce qui se passe.
Excusez-moi, je vous écoute avec attention, mais c'est justement ce que je sais, ce que je peux faire de plus facile. Hein. Ça, de ce côté-là, il n'y aura aucun problème. Hein. Elle me dira si ça ne te dérange pas, avec, ben oui, pourquoi pas. Mais ce n'est pas les grandes questions que moi je me pose. Hein.
Oui, mais c'est une manière de l'amener à parler un peu du voyage. Tu comptes partir quand? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment tu comptes t'organiser? Peut-être, en étant le plus ouverte possible, peut-être ça peut l'inciter à vous en dire plus.
Mais oui, quand vous dites que du côté de son compagnon, il y a peut-être effectivement un problème, je pense ça aussi. Ça, c'est sûr que, alors que le petit n'a pas encore un an, se séparer. De le séparer de son papa alors que lui aussi l'adore, c'est pas anodin, ça c'est clair. Hein.
Bah, trois mois, c'est très long à cet âge-là. Quoi. Donc c'est là où ça me fait penser que c'est. Je comprends qu'elle ait envie de faire un break, que les couches culottes, elle en ait assez, mais trois mois, ça paraît très très long. Et il me semble qu'un couple qui s'aime et qui s'entend et qui vient de devenir parent se sépare pas pendant trois mois. Quoi.
Mais je suis tout à fait de votre avis, hein. C'est pour ça que je vous pose toutes ces questions et que je m'inquiète, parce qu'effectivement, je trouve pas... Et, mais il faut dire qu'elle a aussi peut-être des excuses, hein. À savoir, je vous ai dit qu'elle habitait dans le Jura maintenant, dans un petit bled, et c'est sûrement très marrant de s'occuper... Elle adore son petit... Elle s'en occupe très très bien du reste de son petit bébé, qui est maintenant presque un petit garçon... Et tous les deux aussi, le papa aussi. Mais c'est pour elle qui habitait Paris, être dans un petit bled, c'est sûrement difficile. Et qu'elle ait envie de vivre autre chose.
Oui, ça se comprend, mais trois mois, c'est très long.
Alors, essayez de lui... nouveau de lui dire bon bah écoute tu sais je t'ai bien écouté mais j'ai cru comprendre que c'était donc un voyage de trois mois et que est-ce que c'est par rapport à ton compagnon?
Non Claire, vous recommencez avec les questions. Dans votre première phrase vous êtes déjà en train de lui poser une question et de la mettre dans l'obligation de vous répondre. Elle n'a pas envie de ça. Si vous appelez en disant est-ce que tu as un problème avec ton compagnon, elle va vous envoyer bouler. Vous le savez, ça.
Bah, je sais d'autant mieux que vous me disiez tout à l'heure que ça serait peut-être pas plus mal que j'appelle son compagnon. Alors, ça serait encore un moindre mal. Hein.
Ça, c'est une autre démarche. C'est pas la même chose. C'est de lui demander à lui si tout va bien. Dire que vous êtes inquiète, simplement l'appeler. C'est pareil, il ne s'agit pas d'être intrusif ou lui poser une question, c'est de l'appeler en lui disant « Écoute, voilà, je ne sais pas si vous le tutoyez ou vous le voyez. » Mais de lui dire « J'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe, je suis inquiète, est-ce que tout va bien ?» Juste voir ce qu'il vous répond. Mais quant à votre fille, quand vous l'avez au téléphone, ce n'est pas des questions, c'est simplement lui dire si vous en avez envie, vous. « Écoute, voilà, je me suis dit que peut-être je pouvais t'aider financièrement. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Comment tu envisages ton organisation pour que je puisse moi t'aider ?» Et vous ouvrez une porte en faisant ça, et vous voyez bien si elle l'apprend ou pas. Si elle continue à rien vous dire, c'est qu'elle ne veut pas vous en parler. Et là, ça va être compliqué, vous ne pouvez pas l'obliger non plus.
Ah non, mais ce que vous dites, c'est sûrement une porte à ouvrir, mais elle est grande ouverte. Hein. Claire et nette, elle va me dire, si tu peux, volontiers. Hein. Ça, c'est... elle va pas me demander, mais si je lui dis qu'est-ce que je peux faire, ça claire, hein. Et à mon avis, le problème, il est là aussi, parce que je serais peut-être moins inquiète si je savais qu'elle avait travaillé, qu'elle avait choisi vraiment de faire justement un break après avoir travaillé. Mais là, partir avec un... Elle me dit carrément qu'elle a des économies. Mais des économies, apparemment, elle n'en a pas beaucoup, hein. C'est ça qui peut-être m'inquiète le plus, c'est qu'elle parte... Quand même, le Mexique, c'est pas la porte à côté, hein. Donc, comme elle est très débrouillarde, comme je vous disais, effectivement, elle s'en sortira toujours. Mais pour moi, c'est vrai que c'est une inquiétude de partir avec un minimum, avec un petit garçon. Ça me dépasse, hein, franchement.
Après ça, je pense que c'est sa vie. Une fois de plus, elle part dans un pays tout à fait civilisé. Elle pourra parfaitement se débrouiller avec un petit garçon. Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'il y a des choses qu'elle ne vous dit pas et qu'elle n'a pas envie de vous dire pour l'instant. Mais
ça, c'est certain.
Comme vous seriez prête à l'aider un petit peu financièrement, d'après ce que j'entends.
Oui, bien sûr. Je suis prête, mais en même temps, je ne trouve pas que ça soit... peut-être que je puisse, est-ce que je lui rends service de l'aider? Elle a quand même 33 ans, elle décide de partir 3 mois au Mexique. Bon, ben, bien sûr, c'est un choix. Peut-être que moi je ne le ferai pas, mais si elle a cette idée, ça peut être original. De là à ce que maman ne va pas payer derrière à 33 ans, moi ça me pose. Je peux le faire, et si elle me dit c'est très très important pour moi, mais si c'est pour faire uniquement un voyage un peu en touristique et amical avec ses copines, ça me... Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai l'impression que je l'infantilise un petit peu quand même.
C'est pour ça que je pense qu'en par le biais de l'argent, vous pouvez ouvrir un dialogue avec elle. Sans questionnement, sans jugement, sans chercher à être intrusive, mais en lui disant, écoute, voilà, ok, j'ai bien entendu que tu partais, est-ce que je peux t'aider? Comment? Et par ce biais-là, peut-être gratter quelques informations supplémentaires.
Parce que pour tout vous dire, tout ce qui concerne son compagnon, tout ça, je me pose bien des questions, bien sûr, mais je ne me vois pas du tout intervenir. Mais l'histoire de l'argent, c'est autre chose, parce que je sais que je peux intervenir. Et en plus, moi, ça me sécuriserait un maximum, savoir qu'elle a largement de quoi, si elle a un problème. Mais en même temps, je me dis que c'est l'infantiliser. C'est compliqué à vous expliquer. Ça me rassure, mais en même temps, je me dis que c'est...
Oui, je comprends. C'est pas l'infantiliser, mais vous la déresponsabilisez en faisant ça. En même temps, vous êtes sa maman et vous êtes inquiète pour elle. Donc, c'est un petit peu logique. Enfin, c'est vrai que... C'est pour ça que ça me paraît intéressant d'en parler avec elle, par ce biais-là. En lui disant, voilà, je tourne en boucle là un petit peu, mais est-ce que tu as besoin que je t'aide? De quoi tu as besoin? En même temps, est-ce que tu crois que c'est un service que je te rends si je t'aide? Voilà, juste lui poser cette question-là. Essayez par ce biais-là de gratter un dialogue avec elle.
Oui, mais en vous écoutant et en parlant, je réfléchis en même temps. Je ne vous cache pas que cette question d'argent, c'est quand même, je trouve ça, de mon côté, un petit peu curieux que ce voyage, ça me pose question. Mais le fait qu'elle m'ait dit « Oh, j'ai quelques économies », ça me pose encore beaucoup plus de questions. Ça, c'est une question que je vous pose. Comment est-ce que je peux presque banaliser son voyage, alors que le fait qu'elle m'ait dit qu'elle partait avec quelques économies et un peu en babacool chez deux, trois copines, alors ça me pose... Ça m'interroge un maximum. Hein.
Pourquoi vous pensez que c'est l'argent que vous lui avez donné depuis sa grossesse, qu'elle a mis de côté?
Non, mais c'est qu'elle en a pris. Elle m'a dit, j'ai quelques économies. Ça veut dire qu'elle n'en a pas beaucoup, qu'elle part avec un minimum d'argent. et quelque part, ça avec un minimum.
Quelques économies, moi je l'entendais, parce qu'elle avait suffisamment d'autonomie pour
partir. Bah, je pense quand même, et si vous voulez, ma grande question aussi, c'est qu'est-ce que ça veut dire chez moi de, que ça m'inquiète tellement qu'elle me dise, voilà, j'ai encore quelques économies. Et ça me rassurerait, si elle m'avait dit, voilà, j'ai travaillé, j'ai possibilité financièrement de m'offrir un voyage, ça va me changer les idées. Je crois que je serais moins inquiète que ce qu'elle m'a dit là.
Oui, mais on ne peut pas refaire l'histoire, Claire. Vous ne pouvez pas inventer un scénario qui n'existe pas. Elle n'a pas travaillé, elle n'a pas mis l'argent de côté. Mais une fois de plus, je pense que par le biais de l'argent, vous pouvez essayer de lui parler, d'en savoir plus. De lui dire juste ça, de dire, tu sais, voilà, je suis vraiment inquiète pour toi. Parce que j'ai peur que tu t'en sortes pas financièrement. Est-ce que tu penses que tu auras besoin de mon aide? Et là, vous tâtez le terrain, vous voyez.
Comment mais tu... vous ne trouvez pas que c'est de lui parler à 33 ans, de lui dire je crois que tu auras peut-être besoin de mon aide. C'est lui dire que, enfin, c'est oui, dire donc tu as besoin de mon argent alors qu'elle a 33 ans.
Alors, dans ces cas-là, si vous ne voulez pas entrer là-dedans, vous la laissez faire complètement son histoire et vous n'intervenez pas.
Vous pensez que c'est une... En fait, pour vous, ça serait peut-être la meilleure solution, c'est de ne rien dire, alors.
De lui faire comprendre que vous aimeriez peut-être qu'elle vous... De toute façon, quand vous posez des questions, elle ne vous y répond pas. Lui faire savoir que vous êtes inquiète, que si elle a des soucis financiers... Peut-être elle peut vous appeler aussi, vous êtes toujours sa maman, c'est pas une question d'âge.
Bah, c'est bien, aussi bien ton père que moi.
Je pense qu'elle le sait, voilà, que les parents sont là. Dire voilà, écoute, moi je suis assez inquiète pour toi, je comprends pas exactement ce qui se passe. Sache que, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? En tout cas, sache que s'il y a un problème, on sera là.
Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu, pas de l'enfantillage, mais c'est pas très, très mature, je trouve. Enfin,
le problème, c'est qu'on n'a pas tous les éléments. C'est difficile. D'abord, j'aime pas juger les gens sans les connaître, et même en les connaissant. Mais on n'a pas les éléments, on ne sait pas vraiment la vérité de ce qui se passe en dessous.
Non, mais bien entendu, vous avez sûrement... Moi aussi, je sens la même chose que vous. Entre son compagnon, il y a sûrement... C'est pas évident. Mais il y a quand même, pour moi, quelque chose de clair et net que je sais, c'est que... quand on fait un grand voyage, que ce soit ma fille ou ma cousine, ça se prépare et qu'on ne part pas avec quelques petites économies. Et c'est ça qui me...
Sauf s'il s'est passé quelque chose dans sa vie ou dans son couple qui a un peu précipité les choses. On ne sait pas. C'est là que je vous dis, on n'a pas tous les éléments, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, ouais. Oui, on a qui est-ce qui a envoyé ce texto, Hassan? Ah, ça nous laisse un SMS pour vous, mais qui n'a pas été signé. Quelqu'un qui demande pourquoi le Mexique, d'ailleurs. Est-ce qu'elle a un lien avec ce pays?
Elle a deux, trois copines. Non, vous voyez, elle part en babacool. C'est ça qui me... Mais je ne lui dis pas, comme je vous dis à vous, écoute, ça me dépasse que tu pars avec ton petit bébé chéri en babacool au Mexique. Tu as trois copines. Tu me dis qu'elle a quelques économies. Je ne lui dis pas ça du tout. Je l'écoute et j'attends qu'elle m'en dise plus. Hein. Mais
la personne qui vient d'envoyer un SMS pose une question effectivement qui n'est pas inintéressante. Est-ce que le papa de cet enfant est vraiment son compagnon actuel?
Ils sont pacsés, oui, ils vivent ensemble.
Oui, non, mais certes, mais est-ce que c'est vraiment le père, le géniteur? Est-ce qu'il n'y aurait pas un vrai papa du côté du Mexique, par exemple?
Je vous ai expliqué que j'étais déjà assez inquiète et anxieuse. Si vous, non, mais de ce côté-là, on peut tout imaginer, hein, mais... Non, mais excusez-moi, je ne sais pas si j'ai bien compris.
Non, je ne sais pas, je vous dis, on a quelqu'un qui a envoyé un SMS en disant « Pourquoi le Mexique? Est-ce qu'il n'y aurait pas là-bas quelqu'un comme un papa, un père, le géniteur de cet enfant ?» J'en sais rien, je vous transmets la question.
À pitié.
C'est vrai qu'on peut... Avouez Claire qu'on peut tout envisager dans un scénario comme ça. Pourquoi une jeune femme c'est presque un scénario de film. Pourquoi une jeune femme qui vient d'avoir un bébé avec son compagnon décide de disparaître 3 mois au Mexique?
Pas de disparaître, non, mais disparaître en rien.
Changer de vie.
Mais Bon, alors là, vous m'angoissez un maximum.
Non, non, c'est, attendez, c'est juste quelqu'un qui a envoyé un texto pour poser la question, Claire. Non, n'en faites pas non plus.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors là, j'aurais pas imaginé.
C'est un scénario de film, j'en sais rien, mais c'est vrai que tout, à partir du moment où on ne sait pas, on peut tout imaginer.
Non, moi, ce que je pense, c'est qu'elle a effectivement, elle élève à merveille son petit garçon dans un petit bled et que maintenant, elle a envie, parce que c'est vrai qu'elle est originale, elle a beaucoup voyagé, qu'elle a envie de s'éclater, de se revivre un peu en femme libérée, disons, pendant un temps. Mais
ou alors, si c'est ça, elle a simplement fait un deal avec son mari en disant « Écoute, je me suis fait une grossesse, je me suis fait un accouchement, je m'occupe du petit depuis 9 mois, peut-être que j'ai mérité 3 mois de vacances. » Si ça se trouve, c'est que ça, après tout. Mais si vous me dites qu'elle est originale, qu'elle a voyagé beaucoup, elle a peut-être un compagnon extrêmement compréhensif qui pourquoi pas, lui dit « Écoute, vas-y, amuse-toi. Vis ta vie pendant 3 mois et revenez-moi tous les deux, quoi. Pourquoi pas
hein. ?» j'espère bien. Mais
c'est un autre scénario, m'avez... j'en sais rien.
Vous m'avez rassuré, mais dites à cette personne qui vous a envoyé un texto. Alors là, ça, c'est trop pour moi, hein, franchement.
Il n'a pas un petit côté mexicain, le petit ?
Ah non, écoutez, pitié, non.
Il est
super mignon, blond, yeux bleus.
Bon, les Mexicains sont très mignons aussi, ça n'a rien à voir.
Si ce n'est que c'est particulier, moi, je ne l'aurais jamais fait, hein, partir à l'aventure.
Ah, c'est pas la même génération non plus. Vous l'avez dit, votre fille, elle a déjà voyagé, elle est un peu originale. Ça, je peux comprendre le côté, voilà, elle craque un peu, c'est fatigant, la grossesse, l'accouchement. Mais ce qui est bizarre, c'est partir si loin pendant 3 mois sans le papa, quoi. Et surtout, au-delà de ça, c'est la manière pas très claire dont elle vous en parle. Si elle vous en parlait de manière complètement libérée, en étant heureuse, en vous disant, écoute, voilà, maintenant, ouh là là, je craque, je pars un peu, j'ai besoin de prendre l'air. Mais là, on a l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du non-dit quand vous lui parlez.
Mais c'est exactement ce...
C'est ça qui est plus... Voilà, le nœud du problème, il est là.
Il y a beaucoup de non-dits, mais le non-dit, c'est parce qu'elle elle part un peu en babacoule et elle sait très bien que c'est pas mon style. Et donc, elle reste dans le non-dit par rapport à, justement, la logistique. Alors qu'elle me connaît par cœur. Elle sait très bien que, même si je pose pas de questions, que c'est pour moi, évidemment... et si je partais, je penserais d'abord à l'assurance, si le ça. Donc, elle me provoque en me disant un minimum de choses. Est-ce qu'il faut que je fasse entièrement confiance et que je me dise, où est-ce que c'est pourquoi je vous ai appelé ? C'est parce que je trouve qu'elle part trop en babacoule, hein, ça c'est sûr.
Qu'est-ce qu'il en dit, votre mari ?
Lui, il dit... attendez, la dernière fois, c'est mon ex. Hein. Évidemment, on s'est téléphoné. Ah oui, la dernière fois, il m'a dit « je n'en pense rien
». D'accord, je ne prends pas de risque. Bon, écoutez, non, Claire, on va en rester là parce qu'on tournera dans des scénarios qui sont tous possibles ou tous probables ou tous impossibles, j'en sais rien. Simplement, moi, ce que je ferais à votre place, c'est simplement d'appeler votre fille en étant en ouverture, en disant « écoute, je ne sais pas exactement ce qui se passe, 3 petits points », et c'est lui faire comprendre que vous n'êtes pas dupe, qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Mais sache que je suis là. Je suis là maintenant si tu as besoin de quelque chose, je serai là après si tu as un souci là-bas. Stop. Juste ça, vous voyez, pas plus que ça.
Bon, c'est ne pas donc lui faire sentir qu'on est prêt à, financièrement à être là, quoi.
C'est pas que financièrement, c'est simplement vous êtes là. Mais vous lui faites bien comprendre que voilà, j'ai bien compris que peut-être il y aura besoin de moi, j'en sais rien. Vous ne posez plus de questions, vous la laissez venir. Vous ouvrez la porte et vous la laissez venir.
Mais est-ce que vous êtes d'accord que je vous ai donc bien dit que c'était parce que ça m'angoissait. Est-ce que vous comprenez que cette décision dont elle m'a fait part me pose, en fait, je ne lui ai pas dit. Mais je vous le répète, moi, ça me préoccupe, ça me...
Sur le plan matériel, non, j'aurais tendance à vous dire lâcher prise. Vous me dites qu'elle est intelligente, qu'elle est débrouillarde, ça va bien se passer, je me fais aucun souci là-dessus. C'est plus sur ce qu'elle cache, sur pourquoi elle part vraiment. Et puis, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est vous. Comment vous vous sentez de ne pas voir votre petit-fils pendant 3 mois comme ça? De le savoir loin?
Ben je suis triste, mais je suis habituée, hein, parce qu'ils habitent à l'autre bout de la France.
Oui, mais psychologiquement, ça paraît bête, mais ce n'est pas la même chose de le savoir dans sa maison, de le savoir à l'autre bout du monde.
Bien sûr. Mais ça me... Bien sûr, si. Et puis, je trouve que ce n'est pas tout à fait sa place, hein, personnellement. Autant si elle m'avait dit plus jeune, je pars au Mexique, bonne route, mais partir avec, c'est pas du tout ma façon de penser.
Oui, mais alors là, Claire, vous le dites vous-même, c'est pas votre façon de penser, c'est la sienne. Là, je pense que dans cette histoire, il y a une partie qu'il faut lui laisser. C'est sa vie, c'est sa décision, elle fait ce qu'elle veut, c'est une grande femme. Maintenant, effectivement, le seul moyen que vous avez de garder une porte ouverte, c'est de lui dire, écoute, on est là. Pas forcément que financièrement, si elle a besoin de vous appeler pour... Oui, mais ce que je veux dire, c'est là, c'est une porte ouverte pour qu'elle vous parle un peu plus. Parce que si à chaque fois que vous l'appelez, vous posez des questions, vous avez compris qu'elle n'a pas envie de vous y répondre à ces questions.
Ah, ça c'est sûr. Hein.
Donc ne posez plus de questions, dites-lui simplement, écoute, on est là. Si tu as besoin de parler, si tu as besoin de quelque chose, matériellement, moralement, on est là maintenant et on sera là pendant ce voyage. Point. Et laissez-la répondre, on verra bien ce qu'elle vous dira.
Absolument, mais merci, mais... Reconnaissez que...
Ah, c'est un drôle de truc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se poser des questions sur le scénario possible, j'en sais rien. C'est vrai qu'on peut tout envisager, on peut tout imaginer dans une histoire comme ça.
Ah, pas trop. Hein. Et surtout pas le père...
D'accord, on l'efface celui-là. On va garder le scénario positif, elle a juste envie de penser à elle, d'aller s'amuser. Simplement qu'elle comprenne aussi, que sans vous immiscer... Vous avez besoin d'être un peu rassurée et qu'elle pense aussi à vous rassurer.
Et c'est surtout par rapport au petit hein, que ça m'inquiète plus, vous avez bien compris.
Oui, mais vous savez, c'est sa maman, ouais, c'est bon, sa maman, elle saura s'en occuper. Hein.
Bon, bah, écoutez, merci beaucoup, mais il faut reprendre son souffle, disons.
Lâchez un peu prise, simplement. Laissez-lui l'espace pour qu'elle vienne elle-même vous parler quand elle en aura envie. Puis si un jour vous avez le fameux de l'histoire, vous me rappelez, hein, pour me raconter le scénario, le vrai.
Pas trop, j'espère, hein, quand même.
Pas trop quoi ?
Merci.
Bon, allez, je vous embrasse. Au revoir. Mon Dieu, il est déjà presque 1h du matin, notre émission se termine. Merci à vous tous d'y avoir participé. Merci à Claire, à Odile, à Jeanne. Merci à vous qui avez envoyé des SMS. Je vous quitte avec une citation. Allez encore Jacques Salomé, c'est ma semaine Jacques Salomé. L'herbe est toujours plus verte chez les autres. Jusqu'à ce qu'on découvre que c'est du gazon artificiel. Voilà, je vous retrouve demain soir à partir de 23h sur la Libre Antenne. D'ici là, nous restons en contact sur ma page Facebook Sabine Marin. Passez une bonne nuit et à demain.